Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous continuons aujourd'hui notre méditation sur le divertissement pascalien. Nous pouvons admirer la profondeur du regard de Pascal qui lui fait jeter un regard nouveau sur notre humanité. Nous voyons bien comment tous les jours nous sommes tentés de nous amuser, de nous distraire, de prendre plaisir à ceci ou à cela, et cela peut nous paraître innocent. Mais la profondeur du regard de Pascal lui fait découvrir justement dans toutes ses occupations, ses activités, un divertissement, c'est-à-dire un détournement de l'âme, un détournement d'âme. Et cela en fait est grave et cela nous invite à réfléchir à notre humanité. Pascal souligne ici le double instinct qui est dans notre âme. Un instinct secret, dit-il, qui nous porte à chercher le divertissement et l'occupation au dehors, donc qui nous porte à nous détourner, à nous amuser. Pourquoi ? Parce que nous sentons nos misères continuelles. La maladie, la vieillesse, les problèmes politiques, la mort à venir, la mort dont il faudra reparler. Mais en même temps qu'il y a ce mouvement de l'âme, il y a un autre instinct secret, dit-il, qui reste de la grandeur de notre première nature, qui lui fait connaître à l'homme que le bonheur n'est en effet que dans le repos et non pas dans le tumulte. Et voilà donc un homme agité parce qu'il est pris entre deux tendances contraires. Une tendance au divertissement, à l'amusement et donc à se perdre en s'oubliant, et une autre tendance qui lui fait aspirer au repos. Mais si jamais il goûte quelque chose de ce repos, le plus souvent, le repos qu'il goûte est un repos qui lui fait sentir le néant de son être, qui lui fait sentir son angoisse et qui donc le désespère. Le paradoxe donc de la situation de l'homme, c'est que l'homme se forme un projet confus qui consiste à tendre au repos par l'agitation. Je lis un fragment capital. « Ainsi s'écoule toute la vie. On cherche le repos en combattant quelques obstacles. Et si on les a surmontés, le repos devient insupportable. Car, ou l'on pense aux misères que l'on a, ou à celles qui nous menacent. Et quand on se verrait même assez à l'abri de toutes parts, l'ennui de son autorité privée ne laisserait pas de sortir du fond du cœur où il a des racines naturelles et de remplir l'esprit de son venin. » Admirable fragment de Pascal. Notre vie est un écoulement, tout s'écoule. Remémorons-nous la pensée d'Héraclite. Voilà donc, la vie de l'homme est un écoulement. Un écoulement qui implique aussi un changement et qui apparemment implique un renouvellement. Mais le renouvellement est souvent illusoire et le plus souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ainsi s'écoule toute notre vie. Comment procédons-nous ? Nous croyons chercher le repos, parce qu'il y a en nous quelque chose qui nous fait aspirer au repos. Au repos, c'est-à-dire à la stabilité, à la consistance, à la permanence, à ce qui demeure dans la plénitude. Et nous cherchons ce repos en voyant bien que nous ne l'atteindrons qu'en ayant combattu quelques obstacles, comme l'homme qui sait qu'il pourra rentrer à la maison après avoir chassé et ramené du gibier pour nourrir sa famille. Donc nous cherchons le repos en combattant quelques obstacles. Et nous avons toujours des obstacles à vaincre dans notre existence, politique, professionnelle, sociale, etc. Mais voilà qu'une fois que nous avons surmonté ces obstacles, nous pouvons enfin, semble-t-il, nous reposer, à tous les sens du terme d'ailleurs, mais voilà que le repos devient insupportable. Nous ne tenons pas au temps présent et nous ne tenons pas dans la situation de repos. Ce qui veut dire que nous ne goûtons pas le repos comme repos, nous ne goûtons pas le repos comme plénitude. Quelle est la cause de cela, de cette étrange situation ? La cause, c'est que nous pensons aux misères que nous avons, qui restent, qui peuvent rester. Ou bien nous pensons à celles qui peuvent surgir, à celles qui nous menacent. Et à ce moment-là, dès que nous nous mettons à penser à notre situation, à toutes les misères qui peuvent advenir, eh bien aussitôt nous perdons courage et nous pouvons même tomber dans le désespoir. Pascal examine une possibilité qui a l'air meilleure, c'est celle de l'homme qui se verrait à l'abri de tous côtés. Voilà un homme donc qui est assez riche, par exemple, pour avoir de tous côtés une certitude de vivre dans la sécurité, dans la paix. Voilà donc un homme qui serait, par exemple, apparemment heureux d'être chez soi et seul dans sa chambre. Mais voilà cet homme qui a tout, semble-t-il, pour trouver le bonheur. voilà cet homme qui est pris soudain par ce que Pascal a appelé l'ennui. L'ennui, nous nous rappelons, c'est ce tourment qui procède d'une secrète haine de soi. Et voilà donc qu'il y a quelque chose qui sort du fond du cœur humain. Et que ce quelque chose a dans le cœur humain des racines naturelles. Ce quelque chose, c'est l'ennui. C'est très important parce que la plupart du temps, nous accusons autrui de nos malheurs. Nos parents, une mauvaise éducation, la société, un patron, un collaborateur, un subordonné. Enfin, dans tous les domaines, vous voyez bien comment nous sommes toujours entourés de personnes qui peuvent causer diversement des soucis ou des tourments. Et par là, donc, nous croyons que c'est autrui qui est seule la cause de nos tourments, de notre malheur, de nos soucis ou de notre ennui. Mais en vérité, si nous sommes lucides, nous découvrons qu'autrui n'y est pour rien et que, quand bien même nous serions seuls sur une île déserte, l'ennui surgirait. Et là, nous verrions bien que le malheur de l'homme ne vient pas d'autrui, mais qu'il vient de son propre cœur. Cela veut dire aussi que le cœur de l'homme n'est pas naturellement bon. Du fait du péché, là encore, pour Pascal, le cœur de l'homme est au contraire rempli d'ordures. Le cœur est plein d'ordures, dit-il. Le cœur de l'homme est plein de haine, de mensonges, de duplicité. Et voilà Pascal qui montre bien qu'il ne faut surtout pas établir une religion du cœur et croire qu'à partir du cœur, parce que le cœur serait bon, l'homme peut agir bien. Au contraire, donc, ce qu'il souligne, c'est que le fond du cœur de l'homme, c'est le sentiment du néant de son être, c'est la méchanceté. Et la racine première, nous l'avons dit, c'est l'ennui comme haine secrète de soi-même. Voilà donc que cet homme, qui serait apparemment à l'abri de tous côtés, voilà cet homme tout seul, revenu à soi, mais voilà cet homme malheureux. Parce qu'il y a quelque chose qui remplit l'esprit de son venin, et c'est l'ennui. Quelque chose qui remplit l'esprit de son venin, ce venin, c'est le sentiment du néant, la tristesse, le chagrin, le désespoir. Voilà l'homme, donc l'homme seul, avec lui-même, apparemment voué à la paix, à la plénitude, mais voilà cet homme pourtant, contradictoirement, éprouvé l'ennui, la haine de soi, et éprouvé le désespoir. Ainsi s'écoule toute la vie, nous cherchons le repos en croyant qu'il n'y a que quelques obstacles à vaincre, et qu'après les obstacles, les ayant vaincus, nous trouverons le repos, mais voilà que malheureusement, la situation est tout autre, le résultat est tout autre, parce que nous ne supportons pas le repos, et quand bien même nous serions dans le repos, l'ennui sort de lui-même, de notre cœur, et autrui n'y est pour rien. C'est chacun qui trouve dans son propre cœur la source de ce venin. Autre fragment capital de Pascal, « Ainsi l'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans aucune cause d'ennui, par l'état propre de sa complexion. Et il est si vain qu'étant plein de mille causes essentielles d'ennui, la moindre chose, comme un billard et une balle qu'il pousse, suffisent pour le divertir. » Voilà donc la condition malheureuse des hommes, que Pascal souligne avec beaucoup de force et beaucoup de finesse. L'homme est malheureux de telle sorte que, ou bien il y a des causes véritables d'ennui, objectives, que tout le monde peut voir, et on peut comprendre à ce moment-là le tourment, la tristesse d'un homme, ou bien il n'y a pas de cause véritable ou extérieure d'ennui, mais de toute façon, l'état de notre cœur fait que nous nous ennuierions, même sans cause d'ennui. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ce néant de notre être, ce sentiment de la vanité, c'est-à-dire du vide de notre âme, et quand nous sentons cela, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas nous haïr nous-mêmes. Et ensuite, dernier pas, nous ne pouvons pas ne pas chercher à détourner notre regard. C'est un peu comme un homme qui aurait à voir par la vue quelque chose d'insoutenable et qui aussitôt détournerait son regard. Par exemple, voir un cadavre. Nous détournons les yeux. Et bien ici, voilà l'homme qui détourne les yeux de soi. Et nous retrouvons le thème du divertissement. Il suffit de très peu pour divertir un homme parce qu'il aspire à se divertir. Pascal prend l'exemple du billard ou de la balle qu'il pousse à l'époque du football et autres jeux de balles. Nous voyons bien comment les hommes, par milliers ou millions, cherchent à se divertir en poussant une balle ou en regardant ceux qui jouent avec des balles. Thank you.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous continuons notre méditation sur la misère de l'homme en considérant maintenant la vanité et le divertissement. La vanité, c'est un mot qui vient du latin, vanus, ce qui est vide, ce qui est vain. Pascal souligne la vanité de l'homme et la vanité des occupations ordinaires des hommes, qu'elles soient sérieuses ou frivoles. Il prend un magnifique exemple ici, c'est celui du joueur. Nous retrouverons ce thème dans la littérature plus tard, chez Dostoïevski par exemple et tant d'autres. Je lis le fragment magnifique. « Tel homme passe sa vie sans ennui, en jouant tous les jours peu de choses. Donnez-lui tous les matins l'argent qu'il peut gagner chaque jour à la charge qu'il ne joue point. Vous le rendez malheureux. On dira peut-être que c'est qu'il recherche l'amusement du jeu et non pas le gain. Faites donc jouer pour rien. Il ne s'y échauffera pas et s'y ennuiera. Ce n'est donc pas l'amusement seul qu'il recherche. Un amusement languissant et sans passion l'ennuiera. Il faut qu'il s'y échauffe et qu'il se pipe lui-même en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât à condition de ne point jouer, afin qu'il se forme un sujet de passion et qu'il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte pour l'objet qu'il s'est formé, comme les enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont barbouillé. » Voilà, admirable passage. Regardons donc ce bel exemple du joueur. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait jouer un homme ? On peut penser à tous ceux qui jouent au casino ou ailleurs. Et c'est une métaphore pour montrer toutes nos actions qui relèvent du divertissement. Voilà donc un homme qui joue chaque jour un peu, au casino, et qui passe sa vie par là sans ennui, parce qu'il n'a pas à revenir à soi. Donnez-lui, alors première hypothèse, nous cherchons en vue de quoi il joue, qu'est-ce qui le fait jouer. Certains diront, c'est l'argent. À ce moment-là, faisons l'hypothèse suivante, donnons-lui le matin l'argent qu'il aurait gagné en jouant, en lui demandant de ne pas jouer. Conclusion de Pascal, si nous faisons l'expérience, nous voyons que nous le rendons malheureux, et nous voyons donc que ce qu'il recherche, ce n'est pas l'argent. Si on lui donne l'argent, on le rend malheureux. À ce moment-là, donc, deuxième hypothèse, qu'est-ce qu'il recherche ? Eh bien, ce n'est donc pas l'argent, le gain. Ce qu'il recherche, c'est l'amusement du jeu, et non pas le gain. Deuxième hypothèse, deuxième expérience, faisons-le jouer pour rien. Mais voilà notre homme, maintenant, qui joue pour rien, et qui s'ennuie, qui ne s'échauffe pas lui-même, qui ne s'excite pas lui-même au jeu. Conclusion, ce n'était pas l'argent qu'il cherchait, et ce n'est pas davantage l'amusement qu'il cherche, ou plutôt l'amusement tout seul. Conclusion, un amusement languissant et sans passion l'ennuiera. Explication de Pascal maintenant. Il faut que cet homme, en jouant, s'échauffe et qu'il se trompe lui-même, dans la langue de Pascal, qu'il se pipe lui-même, qu'il se trompe lui-même, qu'il s'illusionne sur lui-même, en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât à condition de ne point jouer. Voilà. Quel est donc l'enjeu de cette affaire ? C'est l'illusion de soi-même à l'égard de soi-même. Cet homme ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas davantage l'amusement seul, il cherche à jouer de telle sorte qu'en jouant, il se trompe lui-même. Qu'en jouant, il s'oublie lui-même et qu'il oublie le temps, qu'il oublie la mort à venir, qu'il oublie le malheur présent ou le malheur susceptible de fondre sur lui. Voilà donc le véritable enjeu, c'est qu'il se forme un sujet de passion au sens fort du terme, qu'il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte. Voilà. Donc l'homme se trompe lui-même et s'il est lucide, il s'apercevra qu'il se trompe lui-même. La plupart du temps, les humains ne sont pas lucides, ils se trompent eux-mêmes sans savoir qu'ils se trompent eux-mêmes. Pascal prend d'autres exemples, l'exemple d'un homme qui a perdu son enfant, qui a perdu son épouse, mais qui aussitôt est pris dans diverses agitations et qui aussitôt donc se divertit du malheur qui vient le frapper. Pascal continue cette méditation sur le divertissement. Je lis un autre fragment. « L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son mérite et tout son devoir est de penser comme il faut. Or, l'ordre de la pensée est de commencer par soi et par son auteur et par sa fin. Or, à quoi pense le monde ? jamais à cela, mais à danser, à jouer du luth, à chanter, à faire des vers, à courir la bague, à se battre, à se faire roi, sans penser à ce que c'est qu'être roi et qu'être homme. Voilà, nous voyons bien ici l'abîme du divertissement qui contrarie et même qui contredit notre nature et notre vocation. La nature de l'homme et la vocation de l'homme, c'est la pensée. Penser à soi, à Dieu et à la finalité de notre existence. Mais voilà que notre situation est telle que nous faisons tout pour surtout ne pas penser. Tous les professeurs de philosophie l'ont remarqué en enseignant en classe terminale, par exemple, et même après, d'ailleurs, parfois. La difficulté qu'il y a à conduire à la pensée quelqu'un qui pourtant est fait pour penser et qui, dans les meilleurs moments de lucidité, sent bien qu'il c'est à la pensée qu'il faudrait qu'il se confie afin de parvenir à la vérité. À quoi pense le monde ? Eh bien justement, le monde ne pense pas. La vie mondaine fait que l'homme ne pense pas. Notre seul souci, notre seule préoccupation, c'est danser, jouer du luth, chanter. Cela peut être aussi quelque chose d'éminemment sérieux, comme un métier, comme une entreprise, aller sur Mars ou ce que vous voudrez. Mais tout cela est un divertissement, dès lors que tout cela est fait pour surtout ne pas revenir à soi, pour surtout ne pas penser et ne pas se penser. Pascal appelle cela la vanité. Voilà, il ajoute « Qui ne voit pas la vanité du monde, eh bien, vain lui-même. » Et en effet, les mondains, et ils sont nombreux, ils sont légions, les mondains ne voient pas la vanité du monde et ne voient pas leur propre vanité. En ne comprenant pas l'enjeu du divertissement dans lequel ils se plongent, ils ne comprennent pas leur propre néant. Pascal continue toujours dans la méditation de l'origine de toutes ces choses, en écrivant ceci. « Si notre condition était véritablement heureuse, il ne nous faudrait pas divertir d'y penser pour nous rendre heureux. » Donc le divertissement est ici l'indice du malheur de la condition de l'homme. Nous avons vu, la condition de l'homme, c'est l'inquiétude, l'inconstance, l'ennui, le tourment. Et le divertissement est bien la preuve finalement de la situation douloureuse qui est celle de l'homme. Si notre condition était véritablement heureuse, eh bien nous goûterions cette joie. Si notre être était un être plaigné, nous éprouverions la joie d'être, et la joie d'être dans la relation à Dieu, dans la relation à autrui, et nous ne ferions rien pour nous divertir, c'est-à-dire pour nous détourner de goûter la présence de Dieu, de goûter l'amitié, de goûter les joies de l'amour, justement. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous nous détournons de tout cela, et nous croyons en nous détournant de penser à nous et à Dieu, nous croyons par là nous rendre heureux. Or, précisément, par là, nous nous rendons malheureux. Je lis un nouveau fragment. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Fragment magnifique, lui encore. Voilà l'homme qui a aspiré à guérir la mort, il a créé pour cela la médecine. Alors la médecine ne vise pas à guérir la mort, mais à retarder la mort et les effets de la maladie. Mais elle peut avoir pour visée lointaine justement le problème de la mort trop facile, trop rapide de l'homme. Pensons à toutes les maladies qui ravagent encore aujourd'hui de nombreux mortels. Donc les hommes ayant échoué à guérir la mort, ayant échoué à guérir la misère et à guérir l'ignorance, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, au lieu de continuer le travail qui vise à réduire cela, et au lieu de tirer la conséquence de l'impossible réduction ou victoire totale et définitive contre cela, ils se sont détournés d'y penser. Et de nouveau, donc, nous retrouvons le problème du divertissement. Donc, nous voyons bien Pascal mettre l'accent sur la situation de malheur de l'homme. Le malheur vient du savoir que nous sommes mortels, de l'avoir à mourir, du savoir de notre misère présente, du néant de notre être, et du savoir de notre ignorance. C'est l'ignorance de nous-mêmes ici, ignorance de nous-mêmes en deux sens, puisque nous retrouvons ici un écho du gnotis eoton socratique, « Connais-toi toi-même ». L'homme ici ignore qui il est en ignorant qui il a à devenir, ce qu'il a à devenir. Donc l'ignorance est l'ignorance de sa véritable nature et l'ignorance du statut qui est le sien dans l'état de misère qui est maintenant le sien. Comment l'homme se sort-il de ce mauvais pas ? Eh bien, en ne pensant pas à sa situation. N'ayant pu guérir tout cela, il s'avise de ne pas penser à tout cela. De ce point de vue-là, si l'on peut parler d'aujourd'hui du transhumanisme, le transhumanisme prétend guérir la mort, la misère, la maladie, etc. Mais il apporte ici une illusion nouvelle et non pas une véritable solution au problème. Continuons notre méditation. Nous rencontrons un autre passage célébrissime et important de Pascal sur le divertissement, qui nous amène à la conclusion. Titre « Divertissement ». Si l'homme était heureux, il le serait d'autant plus qu'il serait moins diverti comme les saints et Dieu. Voilà. Le divertissement est bien l'indice de notre malheur. Un homme heureux ne cherche pas à se divertir, parce qu'un homme heureux est un homme qui se connaît soi-même, qui sent la bonté de l'être qui est le sien, la plénitude de la vie qui lui a été donnée, et l'homme, un homme donc, qui ne cherche en rien à se détourner de la pensée, à se détourner de la connaissance de la vérité, et donc de la connaissance de Dieu, puisque cet homme-là vit au contraire dans l'amour et la connaissance de Dieu. Mais voilà bien la situation de l'homme, c'est que ne pouvant vaincre la mort, la maladie, etc., il se divertit, il s'efforce de ne pas penser. Autre paragraphe encore capital, qui a pour titre « Misère ». La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Admirable pensée encore. Voilà que le divertissement apparaît comme une consolation, comme un amusement, comme quelque chose qui, en nous détournant de penser à notre état, à notre situation métaphysique de malheur, voilà quelque chose qui a l'air de nous apporter le bonheur. Et cependant, ce divertissement est la plus grande de nos misères. Parce qu'en nous détournant de la connaissance de nous-mêmes et de Dieu, et de toute chose en Dieu, nous détournons de la vérité, et par conséquent, nous redoublons notre misère. Parce que nous éprouvons le néant de notre être, et en même temps, nous essayons de le cacher à notre vue. Le divertissement, au sens de l'amusement, en fait, nous empêche de songer à nous, nous empêche de revenir à nous-mêmes et d'oser penser, d'entrer sérieusement dans le travail de la pensée qui porte un nom, qui est le nom de philosophie comme amour de la sagesse. Peu à peu, donc, sans le sentir, nous nous perdons en tombant ou en restant dans l'illusion. Et bien sûr, ici, on peut voir ici une allusion à l'allégorie de la caverne chez Platon. Voilà un homme qui est prisonnier, qui a des moments de lucidité où il s'aperçoit qu'il est prisonnier dans l'ignorance, mais qui préfère insensiblement, peu à peu, rester prisonnier de l'ignorance et des préjugés qui sont les siens. L'issue donnée par Pascal, c'est tout autre, c'est de ne pas nous divertir, d'être dans l'ennui, donc il nous propose sérieusement de faire l'expérience de l'ennui, l'épreuve de l'ennui. Cet ennui comme haine de soi, cet ennui comme tourment, comme mélancolie, nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Voilà. Donc, quand nous ressentons l'ennui, par exemple dans la solitude, seul dans une chambre, comme nous l'avons vu, quand nous ressentons l'ennui, au lieu d'entrer dans la profondeur de l'ennui, dans l'abîme de l'ennui, et de chercher un moyen plus solide que le divertissement, de sortir de l'ennui, eh bien, nous ne le faisons pas. Nous plongeons dans le divertissement, nous replongeons de plus belle dans le divertissement, et nous restons toujours dans l'illusion. Pascal continue en montrant que tout cela nous porte vers la question de la mort. Je lis un dernier fragment. « Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Et encore, le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. »